On va aller dans un texte qui se trouve dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 19, et on va revenir sur un épisode de la vie d'Élie. Premier livre des rois, chapitre 19, et à partir du verset 1er. Premier livre des rois, chapitre 19 et verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. J'ai intitulé cela « Un certain temps ». Quelquefois, les choses durent un certain temps, mais c'est un temps obligé. C'est un temps qui ne peut pas être raccourci. On ne sait pas pourquoi. C'est un temps qui ne peut pas être abrégé et ça devient un temps certain. C'est le temps qu'il fallait. D'ailleurs, pour les plus anciens, certainement, vous vous souviendrez de cette phrase d'un humoriste français qui disait « Combien de temps le fût du canon met-il pour refroidir ?» Et la réponse était « Un certain temps ». On ne sait pas le calculer, on ne sait pas dire combien de temps, mais ben, ça durera ce que ça durera, en fait. Vous pouvez essayer de faire autrement, ça ne marchera pas. Combien de temps cela demande-t-il pour devenir un croyant affermi, accompli, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Combien de temps pour cela? On est obligé de reconnaître un certain temps, un temps certain. Combien de temps faut-il rester en prière? Devrais-je rester en prière pour que ma prière soit efficace? Combien de temps? Ça, c'est des questions qui nous intéressent quand même. Combien de temps faut-il que je prie? Est-ce qu'il faut que je prie longtemps? Est-ce qu'il faut que je prie souvent? Est-ce qu'il faut que je prie tout le temps? Un certain temps. On n'a pas la réponse. Hein. Ça, c'est bien embarrassant. On aimerait bien avoir la réponse à ce genre de questions. Mais vous comprenez que, quelquefois, un certain temps, ça deviendra un temps certain. C'est obligé de passer par ce chemin-là. On ne peut pas faire autrement. Dans le texte qu'on vient de lire, il y a, c'est ce que j'ai souligné en bleu, cette réflexion qui est donnée à Élie par l'ange qui vient et qui, après lui avoir donné à manger, lui avait préparé un bon gâteau sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Élie a bien mangé, il a bien bu, il s'est recouché. Alors il a fallu que l'ange revienne, le frappe une seconde fois et lui dise « Tu remanges encore et puis tu vas partir ». Mais vous avez remarqué, le chemin est trop long pour toi et on voit qu'il a duré 40 jours et 40 nuits. Alors, techniquement, juste techniquement, il y a quelque chose qui cloche quand même. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que si vous regardez sur une carte, pour aller de Beersheba à Horeb, selon l'itinéraire que vous prendrez, on n'a peut-être pas bien localisé Horeb d'ailleurs, exactement à quel endroit Élie avait rendez-vous. Beersheba, on sait où ça se trouve. Donc, on va dire qu'il y a à peu près entre 280 et 350 kilomètres. selon la route que vous allez emprunter et l'endroit où vous localisez au rêve. Ce qui signifie que s'il a accompli cette distance en 40 jours, il a fait à peu près 8 km par jour. 8 km par jour. Il semblerait qu'un marcheur va marcher en général à 4 km/h. Entre 4 et 5, c'est raisonnable. Même s'il fait chaud, même si c'est le désert, c'est raisonnable. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, qu'il aurait marché à peu près 2 heures par jour. Non, oui, par 24 heures. C'est-à-dire 1 heure la journée, 1 heure la nuit. Techniquement, ça fait bizarre quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a surpris en relisant ce passage, parce qu'après tout, vous l'avez lu certainement des dizaines de fois, comme moi, ce passage. Et vous ne vous êtes pas posé la question, vous avez dû dire ben, il y avait un sacré paquet de vitamines dans le gâteau qu'il a mangé, parce que 40 jours et 40 nuits, il faut quand même le faire. Aujourd'hui, il existe des courses, des trails de l'impossible, notamment à l'île de la Réunion. Vous avez ce qu'on appelle la Diagonale des Fous, ça porte bien son nom d'ailleurs, Diagonale des Fous, et vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous traversez toute l'île. Tu devras essayer peut-être, hein, dans quelques années, tu t'entraînes un moment, puis tu verras. Mais c'est quelque chose d'insensé. Et là, c'est des dizaines de kilomètres qu'il faut faire, des centaines de kilomètres, en quelques jours. En quelques jours. Alors, si on ramène à quelque chose, on va dire, de plus calculé peut-être, ou raisonnable, on pourrait dire qu'un marcheur moyen pourrait faire entre 25 et 30 kilomètres par jour, ce qui signifie qu'il aurait pu réaliser le voyage en, grosso modo, une dizaine de jours. Allez, on va étendre, on va dire 15, on va dire 20, 40. 40. Ça me fait dire, parce que je n'ai pas l'explication à ça, je vous mets juste l'évidence. Mais ça m'amène à dire tout simplement que, ben, manifestement, il a pris son temps. Non ? Moi, je pense, hein. Peut-être qu'il avait prévu d'aller en Corse après, donc il a dit « je prends le rythme ». Il a pris son temps. Est-ce qu'il a pris son temps ? Est-ce qu'il avait besoin de temps ? Peut-être aussi. Est-ce que finalement, il ne pouvait pas aller plus vite ? Est-ce qu'il ne voulait pas aller plus vite ? Alors on va oublier cet aspect des 40 jours et des 40 nuits, parce que je pense que vous avez compris que la chose la plus importante, le point de fixation, c'est Horeb. C'est-à-dire, le but à atteindre, c'est Horeb. Il faut y arriver à Horeb. C'est là que Dieu l'attend. On voit bien que Élie passe par un moment particulièrement difficile, et on va y revenir dans un instant, mais on comprend bien qu'il n'est pas en forme, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en lui. Donc, il me semble que ce n'était pas une course contre la montre que Dieu lui impose. Ce n'était pas un impératif de s'y rendre le plus rapidement possible. L'important, c'est qu'il soit au rendez-vous. Et je me dis que bien souvent, dans notre marche avec Dieu, Dieu nous fixe des rendez-vous. Dieu nous fixe des rendez-vous. Ça peut prendre un certain temps pour y arriver. Et une fois qu'on y sera, on dira très honnêtement, ben, c'est un temps certain qui s'est écoulé. Je pensais que ça allait plus vite, je pensais que ça aurait dû aller plus vite. Je pensais que ça aurait mis moins de temps. Je pensais qu'il y avait moins de distance. Je n'avais pas tellement évalué le dévers, la montée, la descente. J'imaginais pas ça. Il y a quelques années de cela, on s'est amusé, façon de parler, à marcher sur les crêtes de Charance. Quand vous regardez les crêtes de Charance, ça fait grosso modo comme ça. Hein. Bon. Quand vous les voyez d'ici, vous voyez les montées, vous voyez les descentes. Et quand vous êtes dessus, en général, vous voyez la montée, vous ne voyez pas celle d'après, parce qu'il y a la descente au milieu et la remontée. Mais franchement, même quand on les regarde, vous dites, wow, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Puis vous descendez, il n'y a pas énormément à descendre, il n'y a pas énormément à monter. Mais comment se fait-il que quand vous montez, vous dites, mais ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est impressionnant. Et au fur et à mesure, vous passez d'une bosse à l'autre, vous avez compris que ben, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus difficile. Il y a des situations comme cela où il faut un certain temps pour comprendre, un certain temps pour vivre ce chemin tracé par Dieu, voulu par Dieu, décidé par Dieu. Bref, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Alors, je me dis que s'il a fallu un certain temps pour Élie à arriver jusqu'à Horeb. Ça a pu être un temps d'introspection, il aura le temps de s'examiner, il aura le temps de regarder au-dedans de lui. C'est quelquefois des temps d'épreuve quand il faut s'en aller d'un point à un autre parce que Dieu dit « il faut que tu ailles à tel endroit, c'est là que j'ai un rendez-vous avec toi ». Et on va revenir sur cette vérité-là, quelle aura été la plus grande expérience d'Élie. Parce que si vous connaissez un peu le personnage, vous savez que quelques temps avant, il avait prophétisé une sécheresse, pas de pluie, pendant des années, et ça s'est accompli pendant 3 ans et demi. Ça a été une calamité, hein. Et puis ensuite, il est revenu sur l'ordre de Dieu, et quand il est revenu annoncer la pluie, il n'a pas fallu longtemps avant que les nuages arrivent et que la pluie tombe. Dieu va lui donner une capacité assez extraordinaire parce que quand il préviendra le roi Achab que la pluie vient et que de l'endroit où il se trouve, il a intérêt à vite atteler ses chevaux et grimper sur son char et de filer à toute allure jusqu'à la ville, sinon il va être rattrapé par l'orage, la Bible dit que Dieu va lui donner la force de courir plus vite que les chevaux. Donc, drôle d'expérience, cela aussi. Expérience assez incroyable. Et puis, il y a eu cette fameuse épreuve où il affrontera des centaines de faux prophètes sur la montagne du Carmel et ça se terminera par une victoire de Dieu parce que Dieu se révélera et on se souviendra que tous ces faux prophètes vont être exterminés. Ça va être un moment épouvantable, un moment terrible. Et puis, il y a cette fuite au désert parce que la reine veut le tuer. Et puis, il y a cette entrée dans une caverne. Et puis, il y a cette envie de mourir. Et puis, il y a cette rencontre avec Dieu. Alors, quel aura été l'événement le plus marquant de sa vie? On ne peut pas, nous, le définir, évidemment, à sa place. Mais il me semble que 40, ça reste un nombre de Dieu, un nombre calculé par Dieu. Et des 40 jours, vous en avez plein dans la Bible. Vous en avez tout un tas. Vous avez par exemple les 40 jours du déluge de Noé. Tout ne s'est pas fait en 40 jours, puisque la construction de l'arche a pris des dizaines d'années. Et puis, une fois qu'on est rentré dans l'arche et que la pluie est tombée, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Et puis après cela, le temps de remettre le pied dehors, il a fallu quasiment un an. Donc, il a fallu du temps, mais 40 jours et 40 nuits de pluie. Les États-Unis, le Texas, vient d'être balayé par l'ouragan Harvey. Harvey, je crois, ou Harvest. Et donc, ça a couché des arbres, ça a fait des ravages assez impressionnants. Il y a des maisons qui ont disparu littéralement. Mais le plus grand drame, c'est les inondations. C'est la pluie qui est tombée. Et on dit qu'il est tombé en quelques heures, en quelques jours, ce qui pourrait tomber en un an. Donc, comme le pays est relativement plat, ça va être catastrophique. Donc, 40 jours, 40 nuits de déluge. On pourrait parler de ces fameux 12 espions qui vont être envoyés par Moïse pour aller explorer le pays. Ils vont rester 40 jours à explorer le pays. Ils auront le temps de revenir avec pas mal de détails, ce qui fait que 2 seuls seront encourageants et 10 autres seront complètement découragés. Et la punition de tout cela sera 40 ans dans le désert, à quelque chose près, 40 ans dans le désert. On se souviendra de Moïse que Dieu appellera justement à Horeb, dans le Sinaï, à Horeb, pendant 40 jours aussi, pour lui communiquer la loi, pour lui communiquer ses ordonnances. On se souviendra aussi du fameux géant Goliath, qui pendant 40 jours, tous les jours, va sortir pour affronter le peuple d'Israël. Et il n'y en a pas un qui relèvera le défi. Vous vous souvenez certainement de Jonas. Alors lui, il n'a pas passé 40 jours dans le ventre du poisson. 3, c'était déjà suffisant. Mais malgré tout, il devra aller dans la grande ville de Ninive pour annoncer à cette ville encore 40 jours et la ville sera détruite. Encore 40 jours et la ville sera détruite. C'était un compte à rebours, finalement. 40, 39, 38. Et vous savez que cette ville, après une journée de marche dans cette ville et après avoir proclamé son message, le roi, les habitants vont se repentir et Dieu ne va pas exécuter ce jugement parce que toute la ville va se repentir. Et puis, enfin, j'ai choisi le dernier exemple, c'est Jésus lui-même, 40 jours dans le désert pour affronter le diable et puis pour en sortir vainqueur. Il est entré poussé par l'Esprit, il en est ressorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc il y a eu derrière ce chiffre 40 des situations que Dieu a suscitées, les situations que Dieu a voulu. Et à chaque fois, eh bien, ça a été un temps marquant, un temps déterminant, un temps qui s'est voulu nécessaire pour chacun, chacune de ces personnes-là. Ça a été quelque chose de nécessaire. On n'a pas pu faire sans, et on n'a pas pu faire moins, et on n'a pas pu faire en coupant cette période-là. C'était une période. Ce n'était pas 40 jours l'un après l'autre. C'était une période, c'était un ensemble. Il a fallu commencer, il a fallu entrer dans ces 40 jours, et on ne pouvait pas en ressortir avant le 40e. C'était comme cela. Il fallait rester à l'intérieur de cette période-là. Je me dis quand même que la volonté de Dieu était d'amener Élie à Horeb. Et je voudrais faire le parallèle. Et je me dis que dans notre vie, dans votre vie, Dieu vous poussera à 40 jours de quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais Dieu vous y poussera dans ces 40 jours d'épreuve, dans ces 40 jours de difficulté, dans ces 40 jours de peine. Alors, on ne va pas rester sur l'idée de 40 jours. Vous avez compris que c'est une période, c'est un temps d'épreuve, un temps d'introspection, un temps d'examen où on doit s'examiner soi-même. Et bon, il faut y passer par là, mais béni soit Dieu, parce que si le rendez-vous, c'est Horeb, si le rendez-vous, c'est à Horeb, alors ça vaut certainement le coup de passer par des moments comme ça. Ça vaut certainement le coup de vivre des moments comme cela. Je reste persuadé que tant qu'on y est à l'intérieur de ces 40 jours, on ne dira jamais « Merci Seigneur, c'est drôlement chouette ». Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis persuadé que tant qu'on sera à l'intérieur, il y aura des moments de désarroi, des moments de trouble. Qu'a dû penser Élie quand Dieu l'a nourri? Et Dieu lui a dit « Bon, je t'ai nourri, mais le rendez-vous, ce n'est pas là, c'est plus loin. Il faut que tu descendes, il faut que tu fasses 300 kilomètres. Je t'attends là-bas, à Horeb. » Pendant qu'il a marché, qu'est-ce qu'il a dû penser? Vite que ça se termine, vite que ce soit fini. Et pourquoi, au point où j'en suis rendu, pourquoi est-ce qu'il m'emmène encore jusque là-bas? Il ne pouvait pas tout m'expliquer ici, après tout, Dieu est partout. Il est là-bas, il est ici. Quel était le but? Quel était l'intérêt? Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, heureusement d'ailleurs, mais il y a des tas de choses que Dieu permet. Et au bout du compte, il nous les expliquera certainement. Il revient bientôt. On l'a entendu tout à l'heure, il est à la porte. Il revient bientôt. Alors, je vous rappellerai tout de même, avant de revenir plus spécialement sur l'expérience que va faire Élie à ce moment-là, je vous rappellerai quand même qu'il y a, à mon sens, deux moments marquants dans l'histoire d'Horeb. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ces deux événements marquants dans l'histoire d'Horeb, de ce lieu, Horeb? Deux événements marquants. Je vous cerne un petit peu la chose. C'est du temps de Moïse, du temps de Moïse. Deux événements marquants.
L'appel de Dieu pour Moïse.
L'appel de Dieu pour Moïse, exactement. Quand Dieu l'appelle, il nous est dit que Dieu le conduit à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est là qu'il se révélera à lui avec le buisson ardent. Et la deuxième qui nous ramène directement à la croix, ouais, le rocher frappé, quand le peuple d'Israël se plaint, gémit, languit, parce qu'on a faim, on a soif comme d'habitude, hein. On jamais satisfait, et nous est dit que Dieu va parler à Moïse, et il va lui dire « tu vas vers le rocher, tu frapperas le rocher, et de ce rocher en jaillira, en sortira de l'eau, et le peuple boira, et c'est à Horeb, c'est le rocher d'Horeb » qui a été frappé. Et tout cela nous ramène évidemment à celui qui a été frappé. L'apôtre Paul rappellera cela dans ses lettres, notamment aux Corinthiens. Il rappellera cet événement, ce rocher qui a été frappé dans le désert. C'est Christ qui meurt à la croix. C'est le Sauveur qui est frappé et de l'eau est sortie du rocher et de l'eau est sortie du corps de Christ. Mais le sang de Jésus a apporté la vie. Et on sait très bien que pour nous, la source de la vie, là où on a été abreuvé, c'est quand on a été à la croix. C'est là que tout a commencé. C'est là que notre marche avec Dieu a débuté. Alors, tout ce qui nous arrive, bien-aimés, doit nous amener à Horeb, doit nous emmener jusqu'à Horeb. Tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente, doit nous emmener au rocher frappé, d'où a jailli la source de la vie. Alors, j'en viens à Élie, et on va revenir sur ce qu'il a vécu. Élie, Je parlerai de son épreuve tout d'abord. Comment un homme de cette trempe-là, comment un homme de ce charisme-là, comment un homme avec tellement de caractère est-il capable de s'effondrer de la sorte ? C'est quand même incroyable, hein ? C'est quand même incroyable. D'ailleurs, ce qu'il y a d'assez encourageant dans la parole de Dieu, c'est qu'on nous montre ces héros sous toutes les coutures. Hein. Il y a le côté héros inatteignable, invulnérable, on ne sera jamais comme ça, Hébreux chapitre 11. Ils ont fermé la gueule des lions, ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice. Et puis il y a l'autre face où certains ont été malmenés, certains ont perdu, certains ont été blessés, certains ont souffert littéralement, donc ça a existé aussi. Alors Élie, comment est-ce qu'il a pu s'effondrer de la sorte quand il dira « il s'est enfui devant Jézabel qui voulait le faire mourir ». Il va s'en aller, il arrive à Beersheba, il laisse son serviteur, il s'en va un peu plus loin dans le désert, il s'assoit sous un genêt et il demande la mort. La mort. Quelquefois, en commentant ce texte, c'est la première réflexion qui nous vient à l'esprit en disant « Mais Élie, si tu voulais mourir, fallait rester où t'étais parce que Jézabel allait s'en charger. » C'est pas la peine de t'en aller. Hein. Ça va vite être réglé. Hein. Elle veut le faire. Mais non, il veut pas mourir. Donc il s'échappe. Et à un moment donné, a-t-il compris que s'échapper, ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas ? Donc, il vaut mieux que je meure, comme ça, on oublie tout, et puis terminé. Comment en est-il arrivé là ? On peut peut-être y trouver plusieurs raisons. Certains pourraient dire, c'est normal, vu ce qu'il vient de vivre, c'est-à-dire, il est monté tout en haut de la montagne, sommet du Carmel, et puis un peu plus loin, sur une autre montagne, pour se jeter à terre et supplier que Dieu envoie la pluie, etc. Donc il a fallu quand même se battre. Nerveusement, ça a été compliqué. Nerveusement, ça a été difficile. Nerveusement, ça a été excessivement éprouvant. Donc on peut imaginer, évidemment, que lui, qui était plein de ressources, il a été à fond tout le temps, il a certainement manqué de sagesse, il a certainement été excessif dans tout ce qu'il a fait, il ne s'est jamais arrêté un instant, certainement qu'il a eu un excès de confiance et il a fait un burn-out. Il a implosé, il a craqué littéralement. On peut dire ça, mais en fait, ce que ça peut nous dire tout simplement, c'est qu'il n'a jamais été qu'un homme, avec ses limites, avec ses faiblesses. Et ce n'était pas forcément un manque de foi, ce n'était pas forcément un orgueil mal placé, mais c'était tout simplement pour rappeler à Élie, « Élie, t'es costaud, ce que tu viens de vivre est exceptionnel, mais tu restes un homme, tu as besoin d'aide. » Parce que il me semble qu'après avoir vécu ce qu'il a vécu, la sécheresse, la pluie et les faux prophètes, il pouvait se mettre en face de n'importe qui et dire « j'affronte qui vous voulez maintenant ». Tout a marché, tout a réussi. L'épître de Jacques nous rappelle que Élie était un homme de la même nature que nous, avec les mêmes passions que nous, avec les mêmes fragilités que nous, avec les mêmes faiblesses que nous. Ça nous ramène tout simplement au fait que l'épreuve, Élie n'y a pas échappé, comme personne d'entre nous ne pourrait y échapper. Et d'ailleurs, si tout va bien, rendez grâce à Dieu. Et ne dites pas « Oh, je sais que tout va bien, mais il y aura certainement un nuage sombre qui va arriver. » Ne le cherchez pas, il arrivera peut-être, il arrivera certainement. Mais il faut juste savoir qu'on n'est que des humains à l'école de Dieu et que de ce fait-là, on a bien besoin tous les jours d'aller à cette école-là et de chercher auprès de Dieu son conseil, même si on sait beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à apprendre encore. Même si on a appris beaucoup de choses, on a encore beaucoup à apprendre. Et la réflexion que se fait Élie est assez incroyable, parce que justement, il arrive à cette réflexion que je préfère mourir que de continuer. Et là, je pose la question, pourquoi tu veux mourir ? Parce que qui doit décider ? Ce n'est pas toi qui dois décider, c'est Dieu qui décidera. Le jour où il décide de t'enlever, il t'enlève. Le jour où il décide que tu meurs, tu meurs. Mais toi, tu n'as pas le droit de décider ça. Ce n'est pas à toi de décider cette chose-là. C'est à Dieu que revient évidemment la décision, mais peut-être que son raisonnement est un peu altéré à ce moment-là. Et je me dis qu'il dit des vérités mais qu'il interprète relativement mal. Il dit « Je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je vous recite peut-être ce verset, verset 4. « Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors, enlève-moi, prends-moi, je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que Dieu ne le savait pas, qu'il n'était pas meilleur que ses pères ? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Mince, je pensais que tu étais meilleur. Ben ça alors, bon ben je te prends, tu as raison, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Est-ce que Dieu ne le savait pas ? Est-ce que Dieu ne le savait pas quand il l'a choisi pour dire tu vas aller vers le roi Akab et tu vas lui annoncer la sécheresse ? Est-ce que Dieu ne le savait pas ? Quand il lui a dit, tu retournes vers le roi Akab et tu lui dis, jusqu'à quand clocherez-vous sur des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Est-ce que Dieu ne le savait pas ? Quand il lui a dit, dresse un autel et affronte les faux prophètes, celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est l'Éternel. Est-ce que Dieu ne le savait pas ? Qu'il n'était pas meilleur que ses pères quand il l'a laissé aller sur le haut de la colline et que cette fois il s'est jeté à terre pour voir si à l'horizon, sur la mer, n'arrivait pas un nuage. Et quand il a vu un nuage gros comme la paume d'une main, il a su que Dieu lui avait répondu. Est-ce que Dieu ne savait pas que Élie n'était pas meilleur que ses pères ? Manifestement, c'est Élie qui ne le savait pas. C'est Élie qui avait besoin de l'entendre, mais Dieu le savait très bien, qu'il n'était pas meilleur que ses pères. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle cela dans une lettre aux Romains, dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Alors, il réfléchit, il dit des vérités, mais manifestement, il ne comprend pas que c'est normal qu'il ne soit pas meilleur que les autres, c'est ni plus ni moins. On a l'impression qu'il découvre une banalité dans le fond. C'est juste une banalité. Ben, tu n'es pas meilleur que les autres. Et Dieu nous le dira sans cesse, on ne sera jamais meilleur que les autres. C'est une banalité, c'est vrai. Mais que Dieu soit béni, il nous a choisis quand même. Et que Dieu soit béni, il fait son œuvre avec nous quand même. Il fait son œuvre dans nos vies quand même. Il fait son œuvre avec ce que nous sommes capables d'y mettre. Alors que Dieu soit béni pour cela. Et puis regardez le jugement qu'il dresse. C'est quand même assez lapidaire. Il dira ceci, d'ailleurs on le retrouve un petit peu plus loin, on ne l'a pas lu, mais à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, Élie est entré dans une caverne quand il est arrivé à Horeb, il va rester à l'intérieur de la caverne et Dieu va lui adresser la parole. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu fais là, dans cette grotte, dans ce trou, dans cette caverne ? Et voilà la réponse d'Élie. « Éternel, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Le jugement d'Élie, je vais vous le faire de deux manières différentes. Il dit... Je suis seul, seul, tout seul, abandonné, abandonné, personne avec moi. C'est désespérant, c'est troublant. J'ai beau chercher, personne, je suis tout seul. Et là, vous dites, pauvre Élie, je vous la fais autrement. Seigneur, je suis le seul, je suis resté tout seul, moi tout seul, selon comment vous le dites. Soit vous êtes vraiment au fond du trou, complètement découragé, soit vous êtes imbu de vous-même, comme ce n'est pas possible. Hein. Ce n'est pas trop comment il faut le prendre. Hein. Ce n'est pas trop comment il faut le prendre. Hein. Je suis resté moi seul. Alors Dieu va lui tirer un peu l'oreille en lui disant, il y en a 7000 comme toi. 7000 comme toi. Sauf que tu ne les as pas vus, tu ne les as pas croisés, mais il y en a 7000 comme toi. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, comme toi. Ils sont restés bien debout aussi. Alors, ce jugement qu'il dresse, soit c'est un sentiment d'abandon, de fragilité, d'isolement, de faiblesse, soit c'est un sentiment de suffisance et de prétention. Mais ce genre de discours peut cacher, vous l'avez compris, toutes sortes de sentiments. Alors Dieu va le reprendre sèchement et Dieu va le remettre à sa place parce que Dieu est compatissant, mais Dieu est vrai. Et quand on fait des erreurs, Dieu nous le dit. Et si on fait des choses qu'il ne faut pas, Dieu nous le dit. Ce n'est pas possible de passer au travers, de passer à côté de cela. Et finalement, quand il dit « je suis resté moi seul, je préfère mourir », Dieu est en train de lui dire « tu t'es brisé tout seul, tu t'es cassé tout seul, tu peux te plaindre à qui tu veux, si tu en es là, c'est ta faute, c'est toi qui as été amené jusque-là, moi, ce n'était pas les plans que j'avais prévus pour toi, c'est toi qui ne cesse de te plaindre maintenant, c'est toi qui ne cesse de t'enfoncer dans ton trou et dans ta grotte, c'est toi qui ne cesse de broyer du noir, ce n'était pas la volonté de Dieu. » D'ailleurs, j'aimerais vous dire, bien aimé, que quand Jésus a envoyé les disciples deux par deux, et il leur a dit d'aller et de proclamer le royaume de Dieu, c'est ce qu'ils feront. Quand plus tard, il va s'en aller au ciel et qu'il va ordonner aux disciples de répandre l'évangile sur la terre, il leur dira ceci, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jamais seul, bien aimé. Vous ne serez jamais seul. Que vous ne soyez pas encore entré dans ces 40 jours, que vous y soyez à l'intérieur ou que vous en soyez sorti, vous ne serez, vous n'avez jamais été, vous ne serez jamais seul. C'est une réalité, le Seigneur sera toujours là. Et puis je veux terminer avec, évidemment, cette notion du combat victorieux, parce que c'est comme ça qu'il va sortir de sa grotte et de son trou, quand Dieu lui adresse la parole, Dieu va lui rappeler ceci, « Je te demande de sortir et de te tenir à l'entrée de la caverne. Il faut que tu sortes de là. » Alors Dieu va faire entendre un bruit fort. Il nous est dit qu'il va y avoir un vent, un tremblement de terre, un feu, et tout d'un coup, un murmure. Ce n'était pas habituel, semble-t-il, pour Élie. Il n'était pas habitué à ça. Mais combien de choses Dieu pourrait faire qui nous soient totalement nouvelles et étrangères, parce qu'on n'est pas habitué. Parce que nous, on aime bien nos habitudes quand même. Quand ça sort un peu des habitudes, on est un peu frileux. On dit, c'est quoi, pourquoi, et pourquoi Dieu changerait de méthode, et pourquoi Dieu ferait autrement. Mais Dieu fait comme il veut. Il y a tellement de choses qu'on ignore, tellement de choses qu'on n'a pas vues, tellement de choses qu'on n'a pas saisies. Et manifestement, ce genre de dialogue, Élie n'avait pas saisi, n'avait pas trouvé ce murmure doux et léger. Et quand il entend le murmure, il sait que Dieu est là. C'est fou, hein ? Il avait l'habitude du vent, des tremblements de terre, du feu. Il avait l'habitude de ça. Ça, c'était sa personnalité, son caractère. Finalement, il aurait pu dire, moi, Dieu me parle comme ça. Eh bien, Dieu lui dit, aujourd'hui, on va changer. On va parler autrement. On va faire autrement. On va voir les choses autrement. C'est tellement bon, finalement, de découvrir encore une autre facette de Dieu. Et là, quand il sort, après ce murmure, qu'est-ce qu'il entend ? Eh bien, il entend que Dieu a encore envie de se servir de lui. C'est encourageant, ça. Hein ? C'est pas encourageant quand Dieu vous dit, allez, si on faisait encore un peu de chemin ensemble, ça vaut le coup, oui, oui. Hein ? Ça vaut le coup. Hein ? Si Dieu nous disait, allez, une nouvelle bataille et une nouvelle victoire, de nouveaux combats, une nouvelle victoire encore, allez, encore un moyen de glorifier le nom de l'Éternel, Dieu est en train de lui dire, j'ai encore envie de me servir de toi. Il va pouvoir transmettre son acquis, puisque lui, il voulait mourir, et Dieu lui dit, non, il y a un jeune qui a besoin d'entendre et de connaître ce que tu as vécu, le fameux Élisée. S'il était parti plus tôt, Élisée, il aurait été à une autre école, mais pas celle d'Élie. Et pourtant, il y avait quand même un acquis à partager, il y avait du passé, là, hein. il y avait quelque chose à transmettre. Eh bien, Élie aura la joie de le transmettre. Ça durera un certain temps, aussi. Et puis jusqu'au moment où Dieu avait réservé le meilleur pour la fin quand même, parce que dites-moi, s'en aller au ciel comme il en est parti, moi je signe tout de suite. Hein. Pas vous ? Ça donne envie quand même. Hein. Ça donne envie. Hein. Partir au ciel avec un char de feu, comme ça, dans un tourbillon. C'était la vie d'Élie, le tourbillon. Mais comme quoi, dans la marche avec Dieu, il semblerait que quelquefois, il y a des situations qui prennent un certain temps. Acceptons-les comme ça. Acceptons-les comme ça. Et puis derrière ce certain temps, On y découvrira un temps certain où on a appris beaucoup de choses de Dieu. Notre jugement a changé. Notre réflexion sur nous-mêmes, sur les autres, aura changé aussi. Et puis, on en sortira évidemment vainqueur de ce combat-là. Parce que si Élie a semblé apparaître de nulle part, 1 roi, chapitre 17, il apparaît comme ça, on ne sait pas d'où il vient. Élisée, on sait d'où il vient, il a reçu le manteau, il l'a suivi, il a été à l'école, il versait l'eau sur les mains d'Élie, etc. Donc, ça a été un temps différent avec Élisée, mais que Dieu soit béni. Finalement, il y avait beaucoup à partager, il y avait beaucoup à transmettre. Alors, bien-aimés, si vous trouvez la solution de cette marche de 40 jours et 40 nuits, venez partager ça avec moi, je suis preneur. Mais toujours est-il que quelquefois, Dieu nous met des clins d'œil, pas des bizarreries, non, non, mais des clins d'œil pour nous faire réfléchir quand même et aller un petit peu plus loin. Alors, à quand, ces prochains 40 jours, on n'en sait rien pour l'un et l'autre, mais que dans ces moments-là, on puisse dire, Seigneur, je ne suis pas seul, tu es avec moi. Je ne vaux pas grand-chose, mais ça, je le sais. Je ne fais pas la découverte, je le sais. Et puis, si j'ai tendance à aller au fond du trou, eh bien, permets-moi d'entendre ton murmure tous les jours pour aller à l'entrée de la caverne et sortir de ce trou-là, pour être au contact avec toi. Là où Dieu nous attend, c'est toujours à Horeb. Là où Dieu nous veut, c'est toujours à Horeb. Là où tout a commencé et où tout recommencera toujours, c'est à Horeb. C'est toujours au pied de la croix qu'on y trouvera ce qui nous est nécessaire. Alors que Dieu nous y invite, que Dieu nous y pousse, que Dieu nous y amène encore et que son nom soit glorifié. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance et merci pour cette matinée. Merci pour ton onction, merci pour ta miséricorde. Merci parce que nul n'est semblable à toi. Je veux te remercier du fond de mon cœur. Je veux te louer pour ces moments que nous avons partagés ensemble parce que tu nous as rappelé que tu venais bientôt, que tu étais à la porte et que nous ne voulons pas oublier cela. Nous ne voulons pas passer à côté de cela. Je veux te remercier et te rendre grâce pour ta fidélité. Je veux te louer pour ta bienveillance. S'il te plaît, accorde-nous ta faveur. S'il te plaît, étends ta main sur nos vies encore et fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Il te plaira de nous raccompagner dans ta paix. Il te plaira de bénir nos vies encore. Qu'il se passe quelque chose de flagrant, de concret cette semaine, qui témoigne que tu es là avec nous dans ces moments-là. Tu es avec ton peuple dans ces moments de difficulté et que la leçon a été acquise et que derrière, il y a une belle victoire qui pointe. Merci de ta faveur et merci de ta grâce. Tu béniras la réunion tout à l'heure dans ce lieu. Tu te glorifieras encore et nous te bénissons pour ta bienveillance. À toi l'honneur et la louange. Amen. Amen.